Donc, nous commençons sur cet après-midi. Alors, je suis très content. Je m'appelle David Cordina. Je suis chargé de programme au CEP depuis le 1er septembre. Moi-même enseignant et formateur de FLE et très engagé dans les pratiques numériques. Et je suis content aujourd'hui et très heureux d'accueillir quatre intervenants, deux intervenants, deux témoignages sur les outils innovants et la question de l'innovation pédagogique dans le métier de professeur de français langue étrangère. Juste une petite introduction très 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 rapide pour vous rappeler quelque chose. Vous savez que des premiers enregistrements sur les gramophones au début du XXe siècle, qui a déjà montré la captation audio utilisable dans les classes, des laboratoires audiovisuels des années 50, des années 60, de l'introduction de la télévision dans les années 70, de l'usage fréquent et massif des bandes magnétiques en classe et jusqu'à il y a déjà 20 ans, l'introduction d'Internet et aujourd'hui de différents usages très contemporains que permettent les outils mobiles que sont le téléphone ou les tablettes. Donc vous voyez, le professeur de langue, le professeur de français a toujours accompagné l'innovation des technologies. Donc c'est l'objet de cette table ronde. Où nous allons aborder trois parties. Une première partie où nos intervenants vont présenter leurs travaux et montrer l'innovation pédagogique qui est présente dans ces travaux, mais une deuxième partie et une troisième partie qui va questionner aussi ce que le séminaire veut sur l'accompagnement. Donc comment dans le parcours de ces enseignants qui sont autour de moi, comment l'innovation est arrivée, en quoi, pourquoi, comment c'est arrivé, et on posera une troisième question également sur la transférabilité des projets innovants, la transférabilité des projets numériques pour les autres, pour la formation initiale des jeunes professeurs ou pour les collègues simplement un peu moins engagés dans les technologies. Alors pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Monsieur Jean-Michel Lebeau qui représente l'association des enseignants de français, du FLM, du FLE, ça c'est très intéressant d'avoir aussi le regard des lettres modernes, donc enseignant de lettres au lycée de l'Iroise à Brest. Je vous invite à regarder tous ces projets qui se cachent derrière l'expression IVOI. Vous retrouverez beaucoup de choses donc, qui questionnent les espaces numériques, l'action d'écriture, des blogs de classe, des réseaux sociaux, des livres numériques. Derrière les travaux de Jean-Michel Lebeau, vous verrez, il y a un foisonnement de projets très très intéressants. Et formateur également dans l'Académie de Rennes aux usages des nouvelles technologies et collaborateur de la revue du Café Pédagogique. Voilà, donc merci d'être là. J'ai à ma gauche Monsieur Abdoulaye SEC, qui représente l'Association sénégalaise des professeurs de français, expert en ingénierie technopédagogique et qui travaille maintenant au bureau des TIS de la division des enseignements et apprentissages de la direction de l'enseignement moyen secondaire général du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal. Voilà. Ensuite, comme deux témoignages, à ma droite, Elisabeth Pires, enseignante de français et formatrice de français langue étrangère et présidente de l'Association portugaise des professeurs de français. Et à ma gauche, Mirjana Franic, qui est enseignante de français également, formatrice de français langue étrangère et qui représente l'association croate des professeurs de français. Voilà, donc quatre pays. Et je vais tout de suite laisser la parole à Jean-Michel Lebeau pour qu'il nous montre dans ses projets quelle est la part de l'innovation pédagogique que vous développez avec vos classes. Voilà. Oui, c'est ici.
Ça commence bien. Oui, juste pour rebondir sur la fin de la matinée, je suis professeur de lettres au lycée de l'Iroise à Brest, donc professeur de langue maternelle, si j'ai bien compris, c'est ça.
Donc ça, je m'appelle
Première, FLP. Je pense qu'il n'y a pas de différence majeure entre FLE, FLS, FLP, tout ce que l'on veut. Enfin, en tout cas, dans mon esprit, il n'y en a pas. Je pense que, moi, mon contenu d'enseignement, c'est d'abord et avant tout la littérature. Mais la littérature, c'est une mise en action de la langue, et la plus belle d'entre elles, je crois. Et d'autre part, en 2014, j'ai l'impression que la littérature est une langue étrangère pour beaucoup de nos élèves. Donc, du point de vue de la pédagogie, nous avons exactement les mêmes problématiques, je pense. Alors, je vais montrer quelques exemples, effectivement, comme David m'y invite, d'usages pédagogiques du numérique, des usages innovants, parce qu'il y a aussi des usages du numérique qui sont des usages, très réactionnaires. Donc, cela ne nous intéresse pas. Un premier exemple, David en parlait, c'est l'exemple d'IVOI, qui est un petit peu mon projet central. IVOI, c'est un blog Un blog de classe, un blog, tout le monde voit ce que c'est un espace d'écriture et de publication sur le web qu'il est très très simple de mettre en place puisqu'il y a des plateformes qui s'occupent de tout. Ce blog, je l'ai lancé il y a 7 ans maintenant. Je ne savais pas trop où j'allais et j'ai été en gros dépassé par la création en fait, par ce qui s'est passé. Alors vous avez là le projet tel qu'il est formulé, vous avez l'adresse, puis si vous tapez Yvoix sur Google, vous y arriverez et vous pourrez accéder à toutes les productions d'élèves, puisque c'est un blog d'élèves. C'est pas moi qui écris sur ce blog, ce sont les élèves. Il y a des blogs d'enseignants aussi, mais cette problématique-là, c'est une autre, elle m'intéresse beaucoup moins. Alors c'est un projet e-twinning, deux établissements sont en partenariat, le mien à Brest, et des élèves qui apprennent le français au Liceo Ceccioni à Livourne, mes élèves ne faisant pas d'italien. C'est un projet qui se fait uniquement en français. Donc c'est un projet qui est français langue maternelle, français langue étrangère, en collaboration. Et c'est un espace de lecture et d'écriture, de création et d'échange autour de la littérature. Voilà le contenu, voilà ce qu'on y trouve. J'y aborde avec mes élèves tout le programme de français en première. Ils se préparent au bac de français, tous les objets d'études au fur et à mesure qu'on avance dans le programme. Ils sont abordés en classe de façon un peu plus traditionnelle, il faut bien préparer le bac puisqu'il y a le bac. Et puis parallèlement, ils mènent des activités d'écriture, de création autour des œuvres qui sont lues, des textes qui sont abordés, des thèmes qui sont abordés. On en est à 18 000 articles écrits par les élèves. Ça veut dire à peu près 3 000 articles par an, ça dépend du nombre d'élèves que j'ai chaque année. La dynamique d'écriture est extraordinaire. Et ils écrivent, pas pour raconter comme ça spontanément leur vie, ils écrivent sur les classiques ou les contemporains. Alors je vais vous montrer quelques exemples de leur production. Ça c'est la page d'accueil du blog si vous y arrivez. Comment ça se présente. Alors, on y trouve des textes très très variés. Je consacre une heure par semaine dans mon emploi du temps au travail spécifique sur le projet Yvoix. C'est une heure ritualisée, les élèves ils aiment bien la ritualisation. Et puis durant cette heure, nous menons des ateliers d'écriture, on met en place des activités autour des œuvres, on rencontre des gens, etc. Alors voilà des exemples. À gauche, par exemple, vous avez une élève qui lit un poème contemporain. À droite, vous avez un élève qui a choisi dans un recueil qu'elle a lu quelques mots. Et elle a passé son samedi après-midi à aller prendre des photos pour illustrer ces mots, pour se prendre en photo avec les copains, copines. Alors, ça n'a l'air de rien, mais vous imaginez en 2014 une élève qui lit un recueil de poésie contemporaine. Combien parmi nous en lisons ? En lise, pardon. Et qui passe son samedi après-midi à faire ça. Alors c'est très intéressant parce que ça m'invite à regarder autrement le numérique. En fait, le numérique, nous croyons que ça, c'est des écrans. Pour les élèves, c'est pas un écran, c'est un miroir. Ils se regardent et ils construisent leur identité avec ce miroir qui leur est tendu par le numérique. Notre travail à nous, c'est d'utiliser aussi peut-être cette capacité du numérique pour les aider à construire leur identité. Et moi, mon but, c'est de le faire avec la littérature. Alors nous avons là une appropriation du texte par l'élève qui renvoie aux théories de la lecture que tout le monde connaît, je pense, celle du sujet lecteur. Le lecteur ici est au centre, mon élève est au centre, il s'approprie le texte, il se le refait, y compris ici par la voix ou par le corps, il se le reprend. Je vous renvoie à ce que disait Modiano hier dans son discours d'investiture au Nobel. Où il disait en gros cela, que l'auteur prenait la photo, c'est les lecteurs qui développent la photo. Ici, c'est exactement ce que font les élèves. Alors, c'est un journal de bord de la lecture qui prend en compte de nouveaux modes d'écriture propres au web, notamment la brièveté, qui, je pense, est à revaloriser et qui est pédagogiquement très intéressante. Vous avez par exemple un type d'article qu'ils peuvent écrire, c'est simplement aller choisir, ça s'appelle fulguration, là en haut à gauche, aller choisir une phrase qui leur a plu dans le livre. Pour ceux qui ont lu Le Père Goriot de Balzac, quand moi je vois une élève qui va choisir dans les 500 pages du Père Goriot cette phrase « Elles viennent, n'est-ce pas ?» Moi je suis devant mon écran et comme professeur je pleure. Tellement c'est émouvant, tellement c'est beau, tellement c'est fort. Alors, il travaille aussi beaucoup sur l'intertextualité, qui est propre au web. Donc, il s'agit de mettre en relation les œuvres lues et d'autres textes, et des photos, des images, des dessins, des vidéos trouvées sur YouTube, de chanteurs, c'est de la pédagogie du détour, hein, de façon classique. Mettre en lien, par exemple, un personnage et un acteur. Ils adorent se livrer à ce que vous avez à droite, là, des castings. Trouver l'acteur qui correspondrait bien à tel personnage de roman, tel personnage de pièce de théâtre. Ce qu'ils prennent aussi beaucoup en compte, c'est ce que j'appellerais la textualité numérique, que nous avons tendance à complètement négliger. Pour nous, vieux croutons, un texte, c'est des mots. Pour nos élèves, un texte, déjà, c'est autre chose que des mots. Il y a plus que des mots. Il y a de l'image dans le texte. Il y a du son dans le texte. Il y a des liens, un hypertexte dans le texte. C'est une textualité numérique qui est composite. Ils ont développé un goût pour ça. À nous d'utiliser ce goût aussi peut-être pour les faire aller vers la littérature. Là, vous voyez à gauche, par exemple, c'est une œuvre, je ne sais plus laquelle c'est, là, c'est une œuvre, un roman historique autour de la Renaissance, et l'élève a transformé ça en nuage de mots. En haut à droite, c'est notre élève qui était chercher un quelques mots dans un recueil de poèmes, là encore, elle en a fait un slogan pour une manif poétique, elle a récupéré une photo de manif sur le web, et puis elle a fait un montage photo. En bas à droite, c'est on travaille sur le jeu de l'amour et du hasard. Donc c'est une élève qui a fait un conte mythique pour les personnages du jeu de l'amour et du hasard. Moi, je demande pas ça. Hein. C'est pas une commande. Hein. C'est une invitation. Ils peuvent faire des tas de choses, mais ils vont spontanément essayer de faire des créations de ce genre. On travaille beaucoup aussi sur quelque chose qu'à mon avis, on ne prend pas suffisamment en considération non plus. C'est l'intratextualité. C'est écrire de l'intérieur du texte. Entrer dans le texte pour écrire de là. Couper, copier, coller, insérer, déplacer, supprimer, remplacer, transformer, tous ces mots-là, vous les voyez apparaître là, des fils devant vous, puisque ce sont des opérations intellectuelles qui sont propres au numérique, au traitement de texte par exemple, mais avec ça, on peut réécrire des textes. Là, vous voyez, un exercice qu'ils aiment mener, c'est la contraction. Ils vont prendre quelques mots ici, quelques mots là, et puis avec ça, ils font un nouveau texte. Ta vie est enfermée dans la petite maison de pluie. C'est-à-dire que l'élève en question, elle a lu le recueil, je ne sais plus lequel c'était, et puis elle est allée habiter la poésie de l'auteur du recueil qu'elle était en train de lire, et elle a fait jaillir d'elle-même des éclats de poésie. Alors, ils adorent ce genre d'exercice pour réécrire les textes qu'ils lisent. Moi, je commence à avoir un problème, c'est que de plus en plus, je préfère les textes réécrits par mes élèves que les textes originaux dont ils se sont inspirés. Oui. Là, vous voyez, en bas, la dilatation, c'est tout simple. Hein. C'est un poète contemporain très difficile, il s'appelle Renaud Ego. « Suis les chemins qui divisent » et mon élève a rajouté « Et tu trouveras nos points communs ». C'est pas compliqué, elle a juste fait un copier-coller de la phrase, et puis ensuite elle a mis des mots dedans, elle, pour aller habiter le recueil. Or du coup, ça débouche aussi très très souvent sur de l'hypertextualité. Ils écrivent à la manière d'eux, des pastiches, de l'imitation. Les pastiches, je vous rappelle que pour Proust, c'est de la critique littéraire en acte. En fait, avec tout ça, on est en train de sortir d'une certaine forme d'écriture purement scolaire, qui est l'écriture de la métatextualité, qui est l'écriture de la glose, l'écriture du commentaire. Nous ne pratiquons que ça, le commentaire, le commentaire, le commentaire, le commentaire. À l'oral, en France, l'oral du bac de français, ce n'est que ça. À l'écrit, ce n'est quasiment que ça. Il faut sortir de cette logique de l'écriture de commentaires. Il y a d'autres façons d'écrire, et le numérique nous y invite, et d'autres façons d'écrire qui sont, je crois, beaucoup plus formatrices et beaucoup plus stimulantes. Alors, juste pour montrer aussi les interactions qui se jouent, ce qui est important, c'est qu'ils se savent lus. Donc du coup, ils vont faire l'effort d'écrire bien, de bien écrire. Ils savent, lui, y compris par des écrivains qui parfois viennent commenter leurs propres articles. Et on se retrouve dans la situation, ce ne sont plus les élèves qui commentent les écrivains, ce sont les écrivains qui commentent les élèves. Alors là, je vous montre juste quelques exemples d'articles faits en FLE. Des poèmes listes, par exemple, hein, c'est tout simple, c'est une stratégie d'écriture poétique qui remonte au Moyen-Âge. Hein. Donc il peut appeler à faire lire des textes ancestraux, comme des textes de Prévert, etc. On peut être dans la confrontation avec la littérature, liste de mes mots préférés. Là, vous voyez, par exemple, Nella Vitaïenne, français, langue étrangère, je rappelle, imitation, qui imite, qui écrit un texte à la manière de Ronsard. Il faut être ambitieux avec les élèves. Hein. Moi, je le vois avec les miens, même en première. Plus les textes sont complexes, plus ils résistent, plus ils arrachent, plus ils sont pédagogiquement intéressants. Alors, juste si j'ai 2 minutes pour montrer exemples d'usage des réseaux sociaux, de Twitter, puisqu'on utilise ça aussi. Ça, par exemple, c'est une réécriture complète de L'étranger via Twitter. Les élèves ont réécrit sous forme de tweet, donc ces messages de 140 caractères, entièrement le roman de Camus, L'étranger. Une activité extrêmement formatrice, extrêmement stimulante à tous les niveaux, y compris pour réfléchir sur le rapport au temps de Meursault, sur la vision de l'absurde et faire de l'expérience de la vision de l'absurde de Meursault. Un autre exemple pour terminer, un exemple d'écriture collaborative franco-italien, parce que l'intérêt c'est d'écrire aussi en collaboration. J'ai demandé à mes élèves de prendre des photos de leur environnement du côté de Brest, là-bas en Bretagne. Ma collègue italienne a fait la même chose là-bas en Italie. Ces photos, nos élèves les ont partagées via Twitter. Chacun a choisi une photo, a commencé par la décrire, puis nous avons lu un poème de Rimbaud qui s'appelle « Enfance », qui a la particularité de commencer toujours par « Il y a ». Et les élèves ont été invités à écrire un poème en prose, inspiré et de la photo et du poème de Rimbaud. Ils l'ont écrit sur Twitter, parce que les fragments poétiques correspondent très très bien à l'esthétique du tweet. Là, vous voyez la description de la photo de l'élève italienne qui est en haut par Bénédicte. On n'a pas le temps de lire. Hein. Là, c'est le poème de Rimbaud. Et voici ce que ça donne une fois que l'élève a rassemblé tous les tweets. Je vous laisse quelques secondes pour lire un petit peu, parce que moi j'ai du mal à lire, parce que tellement je suis ému à chaque fois que je le lis. J'en ai une 60aine de comme ça. Français, italien. Hein. Ils sont en ligne. Si vous tapez e-poème, vous allez les trouver sur le web. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, j'ai rien fait. Hein, là, je n'ai rien fait. Hein. J'ai juste créé la situation pédagogique qui allait permettre à l'élève de faire ça. Ça, c'est un exemple par une Italienne. FLE. Alors, évidemment, c'est moins élaboré. Mais en même temps, je pense que chacun d'entre vous peut apprécier aussi la qualité, notamment de la maîtrise de la langue. Qu'est-ce que nous faisons pour que la langue et la littérature, et je parle là en tant que professeur de français, pour que la langue et la littérature soient une expérience du monde, une expérience partagée du monde? Eh bien, je vais conclure comme ça ma première intervention. Si le français, ce n'est pas ça, si la langue et la littérature, ce n'est pas ça, moi, je suis prêt à changer de métier.
Merci Jean-Michel. Donc, vous voyez, là, un échange très intéressant. Un échange très intéressant là, entre, vous avez vu, un projet aussi de e-twinning, de télécollaboration, hein, qui s'est fait aussi là, avec... Le poème de Enfance, il fonctionne très très bien. Hein. Il fonctionne très très bien dans des classes. Moi, j'ai déjà vu aussi des échanges entre la France et l'Inde sur ce poème-là. Parce que pour les professeurs de langue, au niveau A2, quand vous faites la description, même en A1, enfin de 1 à 2, c'est une superbe ressource. Et vous avez toute la créativité, la poétique qui vient, en plus, qui apporte quelque chose à l'enseignement grammatical. Il y a les expansions nominales. Alors maintenant, je vais donner la parole peut-être... Comme je vais donner la parole à Monsieur Seck, mais comme on parle de e-twinning, peut-être Mirjana, est-ce que vous voulez intervenir maintenant? Parce qu'après je donne la parole à Monsieur Seck, parce que Mirjana aussi est enseignante et elle va vous parler d'un projet également de pratique de classe où elle utilise également les réseaux sociaux et où il y a également un échange de télécollaboration avec différents établissements. Voilà, alors je donne la parole à Mirjana.
Venez ici, il faut fermer le... Nous partons. en Croatie.
C'est quoi ?
Un diaporama.
Diaporama.
Voilà, à partir du début.
C'est français ? C'est en anglais chez moi. Ah, bonjour, quand même, je vais mettre un peu en contexte tout ce que je fais, mais ça se poursuit très bien sur tout ce que vous faites. Je parle un peu de l'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement du français en Croatie, à Zagreb, là d'où vient. C'est concret. Je suis prof de français depuis 20 ans, 24 ans. Et pourquoi j'ai monté ? Pourquoi notre association a monté ce projet ? Pour partager toutes mes connaissances qui restent en classe. Si on ne partage pas, ça n'existe pas. Alors, nous avons créé un centre régional de formation. Je ne vais pas tout lire. Ce n'est pas par hasard que c'est au 9e lycée de Zagreb dans mon école, parce que nous coopérons avec European School Network. Et en fait, c'est ma collègue d'anglais et d'allemand qui m'a motivée de faire la même chose avec le français. Pour monter un projet, il faut avoir une équipe, il faut avoir un soutien dans son établissement. On ne peut pas rester seul. C'est comme un peu l'association au niveau de métier, mais c'est concret, c'est là que je travaille. Alors, si j'ai un problème, j'ai à qui demander. Notre objectif, l'acquisition, bien sûr, de la maîtrise des compétences numériques, mais comme enseignante, c'est l'usage et la diffusion de toutes ces ressources du français. Avant de commencer ce projet, cette formation, on a fait une enquête, on a fait des réunions, et d'après les résultats, on a programmé cette formation. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur le programme. Là, ce que je vais partager avec mes collègues, c'est l'une des contenus, c'est réseau social Edmodo, e-twinning. Parler des exemples concrets. Les professeurs ont besoin de leur parler concrètement, de leur montrer tout ce qu'on fait, de leur montrer ce que c'est un cours en classe. J'ose dire qu'on a assez de théories, qu'on veut vraiment des exemples concrets qui les motivent, que ces exemples soient réalisables. Alors, nous aurons des groupes. Le premier groupe a déjà eu son atelier et c'est là qu'on a travaillé sur le TBI. Chaque personne est venue tant de fois comme il a voulu. Alors, le TBI n'est pas resté un obstacle qu'on ne peut pas surmonter, parce qu'on a déjà suivi des formations, mais on n'a pas eu vraiment le milieu où on pourrait tout cela essayer. Voilà, je vous passe quelques photos. Mais comme le projet est en cours, ce qui me motive personnellement, c'est la motivation. La motivation de mes élèves avec qui je travaille et surtout la motivation du professeur. Moi, je vais rester un prof motivé. Comment on peut rester motivé quand on travaille dans un établissement, quand on est professeur de la langue française, deuxième langue étrangère, qui n'est pas tellement enseignée, mais quand même, je ne veux pas que le temps me surpasse. Alors, j'ai décidé de réaliser des projets. J'ai vu que si les profs d'anglais sont capables de le faire, pourquoi on n'est pas capable
en émulation.
Fait. Voilà. Et en plus, pas seulement faire un projet, mais aussi intégrer un réseau social. Alors, c'est pour la formation de mes collègues, mais ce sont les questions que je me suis posées. J'ai quelques réponses, j'ai mes réponses, mais ce qui m'intéresse, ce sont les réponses de mes collègues. Alors, bien sûr que dans l'enquête, ils veulent savoir un peu plus, pas seulement un peu plus, sur tous ces projets, mais ils pensent que l'utilisation des TIS dans l'enseignement de la langue française est un facteur très important. Nos élèves sont digital natives. J'ai la situation personnelle. À la maison, j'ai une fille de 14 ans. Si j'ai un problème, c'est elle qui m'aide. Viens, aide-moi, comment je fais? Vous savez, à un moment, vous vous sentez perdu. Alors, elle intervient et je me sens très bien. Je travaille avec ce public. Alors, ils se sentent très bien avec les technologies. Et moi, si je veux travailler avec eux, je dois être aussi compétente. C'est pourquoi je partage avec mes collègues. Bien, Je vous donne maintenant un exemple concret. Je n'ouvrirai pas tous ces liens parce que ça va durer.
Ce sera, c'est en ligne. Oui. Si vous êtes intéressé, après, vous pourrez ouvrir les liens.
C'est un projet que j'ai fait avec mes collègues de Belgique, pas en France, et d'Espagne. Et pour ce projet, c'est un projet ITVIN qui s'appelait Étoiles. Ce sont les élèves qui sont devenus les étoiles de la toile. Voilà, on a choisi un nom. Pour ce projet, nous avons obtenu un European Quality Label, alors un label de qualité européen. Pour ceux qui ne savent pas, il faut que dans les deux pays au moins, on obtient un label de qualité. On s'est bien amusé. C'était pas seulement amusement, on a bien travaillé. On a utilisé toutes les sortes d'outils vidéo pour se présenter. Ce sont les élèves qui ont travaillé à MovieMaker. On a utilisé toutes sortes d'outils pour présenter les pays, pour se présenter, mais on est resté dans le sujet qu'on s'est fait. Et je continue avec ma collègue cette année aussi dans un projet qui s'appelle Pro Nature, protéger la nature. Et maintenant, on a encore un troisième pays, Italie. Voilà. Ce sont les nouvelles technologies qui m'ont apporté des liens pour avoir de la confiance. Parce que, super, j'adore communiquer. J'adore les nouvelles technologies. Mais quand même, on a besoin des gens vrais. On a besoin de sentir que les collègues existent, qu'ils ont les mêmes problèmes. Et je vois que ma collègue est aussi motivée. On a commencé à se skyper, c'est par Skype qu'on se fait qu'on prévoit ce qu'on va faire.
Des
ça facilite. Mais c'est personnel aussi. On est amis sur Facebook. Bien sûr, email existe toujours, mais comme ça, ça se développe. C'est eTwinning. Ça rentre bien dans tout ce que vous faites. Ce n'est pas un niveau de français qui est trop élevé, peut-être A2, un peu de B1, mais l'important, c'est la communication. Je vois que mes élèves restent motivés, qu'ils veulent continuer, et pour moi, c'est ce qui est important. Alors, en communiquant avec mes élèves, j'ai intégré un réseau social Edmodo. Pourquoi Edmodo? Parce que c'est un entourage éducatif. Tous les élèves ont leur profil sur, par exemple, Facebook, mais je me rends compte, dès que j'ouvre mon profil sur Facebook, je perds 3-4 heures. Et je ne peux pas me permettre une perte de temps. Alors j'ai dit non, ça ne va pas pour les élèves. Ils ne doivent pas filer. Non, il faut les garder dans un entourage qui est sain.
Oui, un réseau social dédié à votre pratique.
Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ce réseau permet? Échange des informations, distribuer des matériels, interagir et toutes sortes d'interactions. J'ai fait quelques captures d'écran, juste pour vous montrer. J'ai chaque classe à un groupe. Chez moi, français premier, ce sont les débutants, c'est inverse en France. C'est là que je partage des ressources vidéo et autres ressources. Vous voyez, ce n'est pas un français d'un niveau parce qu'ils sont débutants, mais quand même, je partage les vidéos. Et vidéo est formidable, vraiment formidable, comme Stromae chante. En classe, ça capte la...
L'intérêt,
oui, l'intérêt, oui, et 3 minutes de vidéo, ça vaut plus que 45 minutes de mon intervention. Et vous pouvez tout faire, vraiment. On peut échanger ici, vous voyez, Luca, il écrit en croate parce qu'il est débutant, il n'a pas su où m'envoyer le message, alors bien sûr, je dois répondre en croate, mais j'ajoute un peu en français, ou s'ils ont eu le devoir de m'envoyer des mails.
D'accord.
Et j'ai corrigé les mails, je les mets dans la librairie, ça s'appelle comme ça, et je j'envoie à tout le monde. Et c'est ça.
Merci. Donc, merci Mirjana. Alors, le point commun, vous voyez, c'est des projets pédagogiques basés vraiment sur la production des apprenants, et qu'ils aient que 1 ou 2 semaines de français ou... une éducation en FLM depuis le début, c'est la même chose. C'est vraiment mettre en valeur vraiment la production des apprenants, de nos apprenants. Et ici aussi, vous médiatisez les interactions les médiations correctives des enseignants. Alors maintenant, on passe au Sénégal. Et pour Monsieur Seck, peut-être aussi nous présenter un projet où une innovation pédagogique a été illustrée. Merci. Ouais. Et en attendant, je vais ouvrir votre site.
Voilà, merci. Merci. Je vais tenter de présenter la modeste expérience du Sénégal dans le domaine, parce que les conditions d'utilisation des TIS au Sénégal ne se présentent pas comme dans les autres pays. Évidemment, hein, là, c'est pas très très développé, et souvent c'est 10 ordinateurs dans une école. Donc, il fallait donc trouver d'autres moyens. Donc, l'expérience que je vais présenter, c'est en fait une expérience qui est issue de ma pratique de formateur. Donc, il y a ce blog que nous avons fait avec un collègue qui est un peu du genre du même modèle que M. Debout. Donc là, il s'agit en fait de présenter, de laisser un espace aux élèves qui vont produire des textes sur les œuvres au programme. C'est essentiellement centré sur le programme de classe de la troisième en terminale. Donc les élèves produisent eux-mêmes leur texte sur une analyse des œuvres que nous faisons en classe, et ils parviennent maintenant ensuite avec il y a des commentaires qui sont faits, et ça leur permet d'échanger entre les œuvres. Donc il s'agit en fait de les amener à produire eux-mêmes leur texte à partir du programme une analyse, et c'est un site qui est aujourd'hui très très disons visité par les élèves, hein, donc sur le plan pédagogique. Donc ça, c'est un peu une orientation dans le sens que nous faisons. Il y a aussi un blog que j'ai ouvert, un blog qui est le blog personnel. Et dans ce blog-là, je l'ai intégré dans le web pédagogique pour avoir des échanges avec les autres collègues. Et dans ce blog-là, j'ai mis tout ce qui... En fait, il s'adresse un peu... C'est une vitrine pour présenter le français au Sénégal et avec l'université. Donc, il y a tous les documents que j'ai produits sur les TIS, et des études aussi sur la littérature. Donc il y en a deux, un blog qui est centré sur que j'ai fait avec un collègue, qui est centré sur les apprentissages, sur la production des élèves au niveau pédagogique, et un blog qui est destiné à l'extérieur, qui présente en fait le français au Sénégal et l'utilisation des TIS, et qui veut être un espace d'échange avec les gens. Bon, comme je l'ai expliqué, ça ne se passe pas de la même manière que dans les pays plus ou moins développés au Sénégal. Hein. Ça veut dire qu'on peut ouvrir un blog personnel, bon, mais souvent c'est difficile de le mettre en activité. Ça veut dire que c'est difficile. Mais par contre, le second blog, qui est le blog des élèves, marche parce que les élèves de l'école y participent. C'est au niveau du lycée. Donc ce sont deux expériences que nous avons faites. En tant que dans le domaine des innovations. Sinon, j'ai beaucoup travaillé au plan institutionnel. Et là, vraiment, c'est là où se trouve ce que j'ai pu faire comme travail. Je suis à la direction, comme l'a dit monsieur Cordina, je suis à la direction de l'enseignement moyen secondaire général. Et là, je m'occupe du bureau des TIS. Donc, je suis au centre de l'innovation. Donc pédagogique. Et j'étais impliqué dans tous les projets qui ont été, initiés par les ministères. Il y a beaucoup de projets extrêmement importants, très importants. Voilà, merci. Donc des projets assez importants qui, en fait, sont liés avec la réforme curriculaire. Par exemple, il y a la réforme du curriculaire, la réforme de l'enseignement moyen, sur l'introduction du curriculum. Et cette réforme-là a été accompagnée par l'intégration des technologies de l'information et de communication dans les pratiques pédagogiques. Donc j'ai été impliqué dans ce projet-là, et nous étions en fait un peu les initiateurs, les formateurs des enseignants à ce niveau-là. Et donc c'est à ce niveau-là que nous avons proposé aux enseignants des fiches pédagogiques. Des fiches pédagogiques que nous avons mises en œuvre avec eux-mêmes. Donc, nous avons produit des fiches pédagogiques sur l'utilisation de la vidéo, des fiches pédagogiques sur l'utilisation de la vidéo du TBI, le tableau interactif. Nous avons produit aussi des fiches pédagogiques sur l'utilisation des images. Nous avons fait des fiches pédagogiques aussi sur l'utilisation de... Attendez un peu, que je regarde mes notes.
Puis moi, je connaissais vos fiches pédagogiques sur Enseigner TV. Avec
ah voilà, voilà, justement, voilà. Donc, voilà, un peu... Attends,
là, que ah ben voilà, je les ai mis là.
Ça est là. Hein. Voilà, voilà, donc voilà le... Il y a quelques fiches, hein. Vous pouvez cliquer là, sur les fiches pédagogiques.
Ici. Les fiches, d'accord.
Oui, voilà, justement, vous cliquez là-bas, vous verrez. Voilà, donc, on voit là deux.
Fiche poésie, par
la
exemple.
La fiche poésie, par exemple, qui a été faite. Là, par exemple, il fallait former les profs à utiliser les images pour créer une acoustiche, un poème basé sur les noms. Donc ça, c'est une fiche. Donc c'est des fiches comme ça qu'on faisait. Et maintenant, on les mettait en œuvre dans les classes. Les profs étaient suivis. Et il faisait, il mettait ces fiches-là en œuvre. Donc ça, c'est une fiche. Bon, il y en a, ah,
là. Oh, il y en a beaucoup, là.
Ouais. Voilà, il y a le voilà. Ouais. Il y a la fiche sur le compte. Par exemple, la fiche sur le compte. Voilà, voilà une. Le compte oral. Là, il s'agissait de travailler à partir d'un compte oral que le professeur va utiliser en classe. Il va apprendre comment on élabore une fiche. Une fiche. Au lieu d'avoir un compte écrit. Parce que l'enseignement était fondamentalement basé sur l'écrit au Sénégal. Hein. Donc, dans le français langue seconde, l'enseignement est fondé essentiellement sur l'écrit. Les contes étaient écrits, étaient étudiés à partir de textes, bon, qui sont plus ou moins bien écrits, les contes écrits, textes écrits. Et maintenant, il fallait innover et apporter maintenant une autre forme d'apprentissage du conte en s'appuyant sur des fichiers audio. Voilà, donc nous avons travaillé sur ça et le prof va apprendre à scénariser le conte, le document audio. Et c'est dans ce domaine-là que nous sommes allés aux fiches TV5, que nous avons travaillé avec TV5, dans le même sens. C'est-à-dire comment didactiser un document sonore. Ouais. Ça c'est une expérience. Il y a aussi voilà, donc les fiches que j'ai présentées.
Oui.
Voilà. Donc, voilà, donc ça dit que l'intérêt de ça, de ce que nous avons vu, c'est que nous avons fait une évaluation de ça. Nous avons demandé aux profs d'appliquer, de mettre en œuvre les fiches dans les classes. Ils les ont mises en classe et nous avons évalué l'impact de ces outils-là dans les classes. Et nous avons vu qu'effectivement, il y a évidemment un gain qu'il y a eu au niveau des apprentissages. Alors, les professeurs ont changé de pratique. D'une pratique magistrale, parce que c'est ce qu'ils faisaient, ils sont allés vers une pratique, des méthodes plus actives. Qui mettent l'apprenant au centre de l'activité. C'est-à-dire que, dans, par exemple, la fiche que j'ai montrée, la fiche de sur le compte, c'est l'élève qui réalise toute l'activité à partir de l'écoute. L'écoute. Bon, ça, c'est un élément. Ensuite, nous avons vu aussi qu'il y avait d'autres méthodes d'apprentissage, comme la résolution de problèmes, que les professeurs n'utilisaient pas en classe, qu'ils ne faisaient pas, et ils l'ont intégré. Donc, nous avons vu que, finalement, l'accompagnement peut se passer par, des séances de formation où le formateur, bon, en tant que formateur, j'étais avec eux, en tant que formateur, on fait des séances que je vais expliquer après, hein, dans le transfert, je vais expliquer ça dans le transfert, dans lequel j'étais avec les enseignants, on élabore des fiches, on les met en classe, on observe la classe et ensuite on essaie de faire une critique de ce qui a été fait. Et la séance suivante, un autre professeur va mettre en œuvre la même fiche. Et on a vu que là, il y a véritablement un changement dans les pratiques, dans les classes. Dans les classes. Là, on l'a vu par une analyse, une évaluation qualitative et quantitative que nous avons faite. Donc, voilà. Donc, essentiellement, c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé. Il y a le blog dans lequel j'ai mis mes outils, dans lequel je partage, qui est un espace de partage au niveau sur le web pédagogique. Il y a le site que j'ai fait avec mon collègue, que j'ai encadré, et qui permet aux élèves de produire du texte à partir des œuvres qu'ils ont faites en classe. Et enfin, la création de fiches pédagogiques qui peut aider les enseignants à pouvoir élaborer des cours avec les technologies de l'information et de la communication, avec les outils numériques, et qui changent de pratique, mais en intégrant des pratiques nouvelles par rapport à ce qui se faisait avant.
D'accord.
Voilà.
Merci. Donc, on voit les points... Pardon, je vais s'applaudir. Donc on voit des fils rouges quand même, on voit toujours encore des projets basés sur la production des étudiants, on voit déjà une idée sur la notion de mutualisation, de partage de ressources, de créer des blogs ou des réseaux à destination d'une communauté de collègues, d'enseignants. Voilà, donc on arrive en fait directement à la troisième question. Ma deuxième question, c'est pas grave parce qu'elle peut sauter après. On va passer pour la troisième question parce que comme ça je vais donner la parole à notre collègue portugaise, Mme Pires, sur aussi cette idée de transfert. Quand un enseignant a un projet numérique innovant, comment il fait pour le transférer, comment on fait pour que ce projet puisse servir aux autres d'un modèle, comment transférer ces projets, parce que des fois il y a des difficultés sur la transférabilité. Donc on va voir maintenant l'exemple de l'association portugaise des professeurs de français et de voir ce que Madame Pires, sa présidente, propose. Voilà, je vous donne ici.
Tout d'abord, situer au niveau du cadre légal le Portugal. Donc en 2009, le gouvernement portugais promulgue une loi qui dit que le Portugal doit être modernisé technologiquement et les professeurs doivent s'adapter aux nouvelles technologies. Voilà. Et puis après, nous avons eu donc des certifications TIC, ce qui veut dire que les profs devaient, parce que la loi en ce moment est suspendue. Voilà. Donc il y avait trois niveaux. Le premier niveau, c'était pour les professeurs, pour que les professeurs aient des compétences digitales. Ils sachent travailler avec un ordinateur, avec des projecteurs, avec tout ce qui était Internet. Après, nous avions un niveau 2. La plupart des professeurs a réussi à avoir ce niveau 2. Donc, c'était la possibilité de construire des ressources avec des logiciels et des logiciels. Donc, des ressources technologiques. Et puis, le niveau 3, c'était surtout pour des professeurs et la recherche innovante, donc des diplômes, des doctorats, des masters, des choses un petit peu plus avancées au niveau de l'innovation technologique. Donc, ça pour vous situer. À peu près tous les professeurs ont fait le niveau 2, c'est-à-dire que normalement, les professeurs devraient savoir créer des cours en utilisant les nouvelles technologies et les ressources sur Internet. Alors au niveau de la PPF, je ne vais pas parler, je peux parler un petit peu de ma formation, mais la PPF a fait beaucoup de formations au niveau technologique. Voilà, ça c'est notre site. Et voilà, vous voyez donc, depuis la création du centre de formation de la PPF, nous avons fait des journées pédagogiques et des cours de formation, en sachant que ce qui est le plus demandé au niveau national, c'était d'abord au début les programmes de FLE, et puis après tout ce qui était par rapport aux technologies. Alors on a inclus dans les PIC, technologies et DELF scolaire, parce qu'au Portugal c'est assez habituel de les profs d'emmener les élèves aux examens du DELF scolaire. Donc pour ce qui est technologie, nous avons fait des TIC, tout ce qui est TIS, donc audiovisuel, vidéo, chansons. Nous avons fait pas mal aussi de TBI, donc des formations sur le tableau numérique. Et puis je ne m'en rappelle plus, je crois que c'est ça. Et puis on va faire sur le blog l'année prochaine. Voilà, en 2015, Internet et le blog, voilà. Donc c'est surtout ça que nous avons fait. Donc voilà, vous voyez donc des pics, c'est ce que je voulais vous présenter. Après, les congrès. Nos congrès, nous faisons un congrès annuel et tous les congrès insistent sur les technologies, même celui de 2012 qui était Jeux en jeu. Je me rappelle qu'avec Christine, on avait fait un jeu qui s'appelait La roue des chansons, qui était sur TBI. Donc on travaillait les compétences orales, la compréhension et la production orale, avec des chansons francophone, et puis on l'a fait sur tableau numérique. Cette année, nous avons fait le web, et l'année prochaine, nous allons faire la culture francophone, mais on va aussi insister sur le numérique, puisque c'est avec ça que nous travaillons dans les écoles. Voilà. Alors, comment on transfère ça pour nos élèves et pour nos professeurs, surtout parce que c'est l'association qui le fait, c'est à travers des concours. Parce qu'on s'est aperçu que quand on fait des formations, c'est vrai, les professeurs suivent la formation, font le travail qu'on leur demande, et après, qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Comme on en a parlé ce matin, d'ailleurs.
Voilà, qu'est-ce qu'il en reste dans la salle ? Parce que c'est vrai qu'on n'entre pas dans les salles, on ne sait pas vraiment ce que nos collègues font. Alors, on essaye de divulguer des concours. Celui-là, c'est un concours d'affiches, mais qui utilise le numérique. Donc, la première affiche gagnante de 2013 est celle de cette année. Donc, puis les deux autres, celles qui ont gagné le deuxième prix de cette année. Il y en a une qui n'est pas numérique, c'est elle a été faite à la main, mais bon, tous les autres, tout ce qu'on a. Cette année, nous avons eu 66 affiches à concours. L'année passée, on en avait eu 10. Donc, vous voyez, ça avance. Voilà. Et puis, nous avons un autre concours qui n'est pas encore. On l'a déjà divulgué, mais il doit. Il est jusque. Quand est-ce que la fin du. Le projet termine pendant la francophonie, la semaine de la francophonie, voilà. Donc il s'appelle Francotonalité. C'est un concours de vidéoclips sur la francophonie. Donc les couleurs, oui. Les images et les sons de la francophonie. Et donc les professeurs sont invités à participer à ce concours avec les élèves en construisant des petites vidéos sur. Ce qu'ils pensent ou qu'ils sentent de la francophonie.
D'accord. Donc vous avez une réponse par le concours, parce que vous demandez des concours assez complexes en numérique, et comme ça, vous pensez que les enseignants vont réinvestir tout ce qu'ils ont appris en développement numérique pour...
Voilà, parce que les formations, c'est assez passif, c'est un acquis assez passif. Les professeurs font la formation, ils ont 25 heures, ils ont le diplôme qui leur permet de... Donc d'abord de la formation pour l'année, mais après qu'est-ce qu'il en reste ? Comment on transfère ça pour les élèves ? Comment on essaye de faire évoluer le professeur, de s'adapter aux nouvelles technologies à travers des concours ?
D'accord. Donc le concours, un premier élément de réponse. Jean-Michel, vous, comment vous, dans l'Académie de Bretagne, comment vous faites pour transférer toute votre expertise numérique que vous développez dans votre classe ? Comment vous faites pour vos collègues ?
Oui, c'est une question... Voilà. C'est une question difficile sur laquelle j'ai plus d'ambition que de certitude. Je passe beaucoup de temps à essayer de transmettre ces pratiques innovantes du numérique, qui ne sont pas que les miennes d'ailleurs, qui sont celles de collègues de partout, de la Belgique au Québec et dans tous les coins de la France et d'ailleurs. Alors il va de soi que pour moi Internet c'est une voie assez naturelle pour découvrir déjà ces pratiques. Je fais un travail de veille important pour les diffuser aussi, je le fais avec le café pédagogique par exemple. Il y a aussi des réseaux d'enseignants qui sont très connus en lettres. Chez nous il y a Weblettres par exemple qui fait un travail très important pour diffuser ces pratiques, pour partager ces pratiques. Twitter, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a quelques collègues qui sont là actuellement, qui tweetent. Je veux dire combien moi Twitter a changé ma pratique d'enseignant, m'a fait découvrir de nouvelles choses et combien pour chacun d'entre nous ça peut être un espace de formation. Donc il faut inciter les gens à aller sur Twitter et à se créer de réseaux, vraiment des réseaux de professeurs, de français. Et c'est là qu'on découvre et qu'on diffuse beaucoup de choses. Alors maintenant, moi je pense qu'Internet ne peut pas suffire parce qu'il y a un risque qui est le risque de l'entre-soi. Former une petite communauté d'enseignants un petit peu innovants, mais voilà, qui ne se parlent qu'à eux-mêmes. Et puis, qu'est-ce que se passe-t-il dans le monde réel ? Je ne suis pas sûr. Pour que ça fonctionne, il me semble effectivement qu'il faut que les enseignants fassent l'expérience du numérique. C'est comme les élèves qui doivent faire l'expérience de la littérature ou de la langue, c'est pareil, hein. Ça suppose des formations, me semble-t-il, assez longues. Très souvent, les formations qu'on met en place, c'est 3 heures. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Pas grand-chose. Même à l'ESP, actuellement, pour les jeunes collègues, en Académie de Rennes, en tout cas, c'est 3 heures dans la première année pour être formé au numérique. Pour moi, c'est ridicule. C'est ridicule.
15 heures minimum.
Ouais, il y a des problèmes. Alors, je pense que surtout, ce qu'il faut faire, c'est changer notre culture d'enseignant. Tant qu'on n'arrivera pas à changer notre culture d'enseignant, on n'arrivera pas. Notre éducation nationale est encore très pyramidale. Nous sommes formatés pour le transmissif. Or, dans la société du partage de connaissances qui est en train d'advenir avec le web, il nous faut imaginer, je crois, de nouveaux espaces et temps de collaboration et de partage. Par exemple, qu'il devienne normal, régulier, d'aller voir un collègue en train de faire cours et d'accueillir un collègue dans sa classe. ça ne se fait pas. Les murs sont fermés dans les écoles, les collèges, les lycées, y compris pour y avoir des collègues d'autres matières, surtout même peut-être. Par exemple, qu'il soit donné suffisamment de temps à un formateur pour qu'il aille accompagner le début de l'utilisation d'un outil. Pour qu'il soit là, pour apaiser la crainte qu'un enseignant peut avoir les premières fois où il va utiliser telle ou telle chose. Par exemple, comme cela se passe au collège Léonard de Vinci à Saint-Brieuc en Bretagne, c'est un collège connecté. Chaque semaine, dans l'emploi du temps des profs, il y a une heure qui est inscrite à l'emploi du temps de tous les professeurs, qui est une heure de rencontre, d'échange, d'atelier collaboratif, de laboratoire, où les professeurs se montrent qu'ils ont trouvé comme outil ou telle pratique qu'ils ont eu dans leur classe avec leurs élèves. Et ils s'auto-forment, ils se forment, ils s'initient les uns aux autres. Moi, je crois qu'on doit réinventer notre métier avec les valeurs de l'intelligence collective. Ce matin, c'est Manuela qui employait ce beau mot. Je crois qu'il faut que nous mettons en place une dynamique du compagnonnage.
Merci. Monsieur Sec, au Sénégal, j'ai mon micro qui marche plus.
Même question. Vous travaillez au ministère. Mm-hmm. Quelles actions, quelles entreprises vous faites pour transférer cette innovation?
Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons. Donc, moi, je suis inscrit dans l'innovation institutionnelle. C'est-à-dire que c'est par l'institution que l'innovation est venue. C'est un peu différent, la situation, le contexte est un peu différent, parce que les écoles, les élèves et les enseignants ne disposent pas suffisamment d'outils. Donc il fallait que ce soit l'institution qui porte l'innovation, que ça aille de base en haut. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc j'ai donné ici l'exemple du curriculum. Donc le curriculum, c'est en fait une réforme qu'on a introduite dans l'enseignement moyen secondaire général. C'est les élèves qui ont entre 13 ans et 16 ans. Donc, il fallait intervenir là-dessus. Donc, comme l'a dit le collègue, c'est très compliqué de vouloir amener l'enseignant à changer sa pratique et d'intégrer ces outils-là. Donc, nous avons trouvé une formule que nous avons appelée la formation rapprochée intensive. C'est-à-dire que nous utilisons le schéma habituel de formation continue, hein. Les enseignants sont encadrés par des formateurs qui sont dans des centres et qui les suivent dans leur formation toute leur carrière, hein, pendant l'année. Ils ont des programmes de formation. Alors, on essaie de mettre en place des séminaires qui les suivent, pendant toute une année. C'est une expérience que nous avons faite et que nous avons évaluée. Donc, les enseignants, on les met ensemble en groupe zonal. Ils sont organisés en cellule zonale. Dans ces cellules-là, on regroupe plusieurs écoles, des enseignants, mais par discipline. Chaque discipline, hein, ils vont travailler en mathématiques, ils vont travailler en français. Donc, ils sont ensemble, et maintenant avec un formateur. Alors, la séance se déroule ainsi. En première, une journée, c'est durant une demi-journée, hein, une demi-journée de formation. On l'appelle demi-journée pédagogique. Alors, l'enseignant est mis sous la conduite d'un formateur. Alors, ils viennent dans une école, ils observent un enseignant intégrant les techniques dans son cours. Après la séance, on fait une séance critique sur le bilan de ce que l'enseignant a fait. Ensuite, le formateur fait un zoom. Il prend, par exemple, un outil comme la vidéo, ou bien comme le blog, il fait un zoom là-dessus et il montre comment on peut l'exploiter en classe. Et ensuite, maintenant, il met en œuvre par une simulation dans la classe. Les enseignants prennent des notes et on prépare ensuite la séance suivante. Et pour la séance suivante, on va désigner un enseignant qui va prendre un outil, qui va faire son scénario pédagogique et qui va le dérouler en classe. Donc, ce sera l'observation. Le sujet de la classe d'observation, l'objet d'observation dans la séance suivante. Donc, on va de cycle en cycle. Hein. Donc, on observe l'enseignant qui avait déjà vu le simulateur, qui a mis en œuvre. Ensuite, on fait la critique, on fait un autre zoom. Et nous l'avons fait pendant... C'était une expérience, hein, où on l'avait évalué. Il y avait trois classes témoins. Il y avait des classes qui n'avaient pas du tout d'outils numériques, des classes qui avaient des études numériques mais qui n'étaient pas accompagnées et des classes qui étaient accompagnées. Et nous avons suivi le processus. Maintenant, au bout du compte, on a vu que les enseignants intégraient les outils. Ils savaient comment utiliser la vidéo. Ils savaient aussi comment utiliser l'image et comment utiliser les objets, les réseaux. Et c'est nous qui faisions les fiches pédagogiques pour les orienter. Dans ça. Donc, nous avons pensé que le transfert ne peut se faire que de manière institutionnelle. Maintenant, au niveau de la classe, évidemment, là, il faut qu'il y ait le suivi du formateur. C'est le formateur qui suit et il y a une fiche d'observation qu'on met en place qui permet aux autres collègues de vérifier par la fiche comment l'outil a été utilisé et quel a été l'impact. Donc, on l'a évalué et cette méthode de transfert a donné des résultats. Parce qu'on a vu que dans les classes et les écoles où il y avait l'ordinateur et où il y avait une formation rapprochée, les enseignants ne se comportaient pas de la même manière que les enseignants où il n'y avait pas d'outil informatique, où il n'y avait que l'ordinateur. Ceux-là sont restés aux méthodes anciennes, c'est-à-dire la méthode expositive. Ils enseignaient comme d'habitude, comme sans changer de pratique. Voilà. Donc c'est un peu l'expérience que nous avons eue et nous l'avons évaluée. Je crois que le rapport d'évaluation, il est dans le site hein, que j'avais, le web pédagogique. Il est disponible hein, pour ceux qui voudraient voir comment ça se déroule. Donc voilà un peu comment nous voyons donc le transfert, parce que on pense que le transfert individuel, l'initiative individuelle, ne peut pas être porteuse dans ce cadre-là. Voilà. Donc voilà.
D'accord, merci. Je voudrais revenir juste un petit peu avant à votre question. Vous êtes tous des professeurs ou des formateurs innovants. Comment ça se fait dans votre carrière que vous êtes arrivé à ça? Quel a été, parce que c'est peut-être intéressant pour des jeunes collègues, comment un jour vous êtes réveillé en disant « Tiens, je vais lancer ce projet ». Bon, peut-être ça ne s'est pas passé comme ça.
Alors, l'histoire commence en 1962. Je suis né
à la naissance.
Non, je ne veux pas rentrer dans les considérations autobiographiques. Je ne suis pas un informaticien. Je n'ai aucune compétence technique. Je suis un professeur de français, je suis un pédagogue. Donc la question n'est absolument pas celle de la technique. Je ne suis pas venu enseigner le français et le numérique parce que j'avais des compétences en numérique. C'est l'inverse qui s'est passé. Alors, en fait, pour moi, tout est parti d'un constat. Le constat, c'est celui d'un écart terrible entre le discours dominant et la réalité. Le discours dominant, c'est le discours qui est tenu sur nos jeunes, nos digital natives, nos natifs du numérique, si on les appelle comme ça, selon le discours selon lequel les jeunes ne lisent plus, n'écrivent plus, ne s'intéressent plus à rien, n'ont plus aucune curiosité pour quoi que ce soit. La réalité, c'est que les jeunes n'ont jamais autant lu et écrit qu'aujourd'hui. Vous avez là une photo. C'est une photo de mon élève, d'une de mes élèves à droite, et la célèbre liseuse de Fragonard à côté, qui dit bien ce changement culturel. Nos élèves passent toute leur soirée à lire, écrire. D'ailleurs, quand ils sortent du cours, c'est souvent là qu'ils commencent à écrire. Vraiment. C'est-à-dire, je ne parle pas de prise et prendre en note le cours du prof, mais ils sortent de leur smartphone et ils commencent à envoyer un SMS. Ils écrivent enfin libres d'écrire. Ils aiment lire et écrire. Alors évidemment, on me dira, ils ne lisent pas forcément la plus haute littérature et ils n'écrivent pas dans le français du dimanche que nous appelons de nos voeux. Mais ils aiment lire et écrire. C'est tout notre défi de pédagogue. Qu'est-ce que nous faisons de ça ? Moi, quand je les ai vus commencer à se lancer à ouvrir des blogs il y a une dizaine d'années, je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que moi, professeur de français, je fais de cette passion d'écrire qu'il y a chez mes élèves ? Alors pour moi, le défi, il est là. Il nous faut transformer ces appétences de lecture et d'écriture en compétences de lecture et d'écriture. C'est ça, notre travail. Alors c'est comme ça que je me suis lancé. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'aille sur leur territoire. Leur territoire, c'était les blogs, c'est maintenant les réseaux sociaux. Demain, ça sera autre chose, peu importe. Il faut aller les chercher là où ils sont. Tout ceci en plus est nourri de l'expérience, de réflexion, de rencontres, de lectures aussi, qui ont fait que renforcer mes convictions en la matière. C'est un cheminement aussi intellectuel. il faut bien prendre conscience d'une chose, le numérique dont on parle cet après-midi, ce n'est pas une technique, c'est une culture. La question, elle est culturelle, elle n'est pas technologique. D'ailleurs, on a bien vu tout à l'heure, on a vu un exemple d'une production d'élèves qui était en dessin, là, qui n'était pas numérique, mais qui relève pour moi de la culture numérique. Hein. Et on peut faire avec le numérique des choses qui n'ont rien à voir avec la culture numérique, d'ailleurs. Nous sommes en train, c'est pas moi qui vais, je vais pas vous refaire Michel Serres, mais nous sommes en train de passer de la civilisation du livre à la civilisation de l'écran, pour les petites poussettes que sont les digital natives. Vous avez là le changement de civilisation symbolisé par cette image. Ce changement de civilisation qui est analysé par Michel Serres dans Petite Poussette et par bien d'autres spécialistes, il nous interpelle, nous, professeurs de français, au premier plan. Parce qu'il impacte, c'est pas un joli mot, le contenu même de ce que nous devons enseigner. Nous, professeurs de français, j'imagine la plupart de ceux qui sont ici comme moi, nous sommes issus de la civilisation du livre. Et nous sommes là pour transmettre notre passion de la littérature, du livre. Comment transmettre cette passion du livre à la génération qui est déjà la génération d'après, d'après le livre, comme l'écrit François Bon dans un de ses essais. Le défi est énorme, mais le numérique pour moi est une chance parce qu'il m'a permis de remettre la littérature entre les mains non plus des écrivains mais des élèves. Je vous l'ai montré tout à l'heure, pour que la littérature devienne une vraie expérience du monde et pour que chaque cours de français, autant que faire se peut, soit une expérience vivante de la littérature. Nous devons repenser complètement avec le numérique ce que nous allons enseigner, parce que la littérature est en train de changer. L'endroit maintenant où les écrivains écrivent, ce n'est plus les livres, c'est le web. De nouvelles façons d'écrire sont en train de s'inventer. De nouvelles façons de lire sont en train de s'inventer. J'imagine que comme moi, vous vous rendez compte que vous ne lisez plus de la même façon que quand vous aviez 20 ans. Moi, j'ai changé ma façon de lire. Il y a des genres littéraires qui vont très vite devenir obsolètes. Le roman, par exemple, j'en suis convaincu, n'a plus que quelques années à vivre. J'en suis convaincu, parce qu'on va commencer à lire essentiellement là. Je ne sais pas qui a essayé de lire un roman sur un ordinateur, sur une tablette, une liseuse, c'est un défi. En revanche, de nouvelles formes littéraires sont en train de s'inventer. Il ne faut pas désespérer, hein. C'est pas grave. L'épopée, ça a disparu aussi, on s'en porte très très bien. Nous avons tendance à sacraliser la littérature et à considérer qu'elle est éternelle. La littérature, c'est un monde en mouvement. Heureusement, c'est pour ça qu'elle est vivante, elle est en train de se réinventer. De nouvelles façons d'apprendre sont aussi à inventer. De nouvelles valeurs sont en train de se diffuser auprès de nos élèves. La créativité, la collaboration, l'esprit critique, l'ouverture au monde. Tout ceci, c'est ce qui doit nous permettre de revitaliser l'enseignement et l'apprentissage du français.
Et alors Donc, en observant les étudiants, en observant ces changements culturels, vous arrivez à cette innovation. On va peut-être finir, et après je vais donner la parole à la salle, parce que je suis sûr que vous avez beaucoup de questions. Moi, je me tourne vers Mirjana ou pour Monsieur Seck. Pourquoi vous êtes arrivé à l'innovation? Pourquoi un jour vous avez dit, tiens, je vais faire un projet Edmodo? Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, à cause de votre collègue d'anglais.
J'ai dit un peu, mais je dirais que j'ai toujours eu horaire des professeurs qui restent conservés. comprenez, j'ai pas voulu être quelqu'un qui ne change pas.
Un goût pour le changement, oui.
Alors, si le monde change, si nos élèves défilent devant nous chaque année les nouvelles générations, c'est à nous de nous adapter et de trouver les nouveaux moyens de transmettre les connaissances. Il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est de transmettre les savoirs. Nous avons beaucoup d'expérience. Quand j'ai commencé le premier atelier, j'ai dit à mes collègues, écoutez, je ne dis pas que le prof qui utilise les nouvelles technologies est meilleur professeur de celui qui ne veut pas l'utiliser, mais c'est un moyen qui me permet de s'approcher de mes élèves. Pas seulement de s'approcher, je suis déjà proche, mais de les approcher, d'entrer leur monde qui les intéresse dans la classe, que ce classe passe comme ça, qu'ils sont intéressés. Et je pense que c'est bien. Je n'ai jamais voulu rester conservée, comme je dis, alors j'ai suivi juste le chemin. Peut-être que ce sont mes propres enfants, parce que j'en ai trois qui sont déjà des étudiants, et j'ai compris que ce qui les intéresse, ce n'est pas ce qui m'intéresse. En fait, il les intéresse beaucoup de choses, mais comment transmettre le message, je vois très bien où est le problème. C'est pas aux élèves de s'adapter toujours au professeur. Il y a beaucoup de profs qui sont comme ça. Ils changent pas. Ils changent pas. Mais je dirais pas que tous les professeurs de français en Croatie veulent participer à ces changements. D'abord, j'ai fait une enquête à l'aide de Google Docs. C'est la première fois. J'envoie les mails, personne ne répond. Voilà. J'envoie deuxième fois. La moitié de profs répond, alors l'autre moitié ne veut pas participer. Un quart de profs veut participer dans la formation. L'âge n'est pas important. Ça ne va pas dire que les jeunes veulent participer. Il y a des collègues qui sont bien devant la retraite, qui veulent savoir et qui apportent beaucoup de choses à la formation.
La curiosité.
Et quoi encore ? Mais je pense qu'il faut vraiment trouver la mesure dans l'utilisation de nouvelles technologies parce que nos élèves sont surchargés, nous-mêmes. Personnellement, j'ai trop d'informations dans la tête, j'ai trop de projets, mes week-ends sont devenus des week-ends de travail. Monter un projet, faire un projet, vous devez dire à vos familles que vous faites un projet parce que... Mes enfants me disent, mais qu'est-ce que tu fais hein? Tu es toujours dans un... Ouais. D'accord, c'est l'investissement. Ouais. D'abord, c'est un travail d'équipe. Comme j'ai dit, dans mon établissement, j'ai vraiment on s'est fait des amis. Il y a toujours un inventaire qui va premier, qui n'est pas toujours compris. Ce n'est pas facile, on a l'impression, mais qu'est-ce qu'il veut? Il voyage toujours, il est là et là. Qu'est-ce qu'il fait aux États-Unis maintenant? Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais ce n'est pas important. Il y a ceux qui comprennent. Il faut faire un réseau des personnes qui veulent continuer, comprendre, qui veulent partager. On est venu à un moment où sans partage, vous faites quoi? Vous êtes égoïste? Quel est le sens des connaissances?
D'accord. Donc une curiosité, ouais. Un goût pour le changement. Vous n'avez pas peur du risque? Donc,
voilà. Ouais. Mais je pourrais dire encore des choses, mais ça suffit. Ça suffit.
Monsieur Seck, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir innovant?
Oui, c'est à peu près la même raison. Hein. La même raison. Oui, parce qu'il y a. Je crois que je suis venu un peu vers 2000, hein, pas 1962. Hein. Je suis venu vers 2000, l'éthique. Et j'ai été formé à l'utilisation de l'ordinateur. Alors, quand j'ai vu l'ordinateur, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des possibilités pédagogiques avec cet outil. Ça, je m'en suis rendu compte tout de suite. Et donc, j'ai acheté un ordinateur que j'ai amené chez moi. Et j'ai commencé déjà à travailler avec. Et j'ai cherché l'Internet. Et d'abord, les fiches pédagogiques. On les faisait faire par le secrétaire, c'est moi qui les faisais moi-même. Donc j'ai vu que l'ordinateur pouvait permettre de faire beaucoup de choses. Alors j'ai eu une occasion, je me suis dit comment me former à ça. J'ai eu la chance de faire une formation avec l'AUF qui m'ont formé et avec laquelle j'ai eu. Alors là, j'ai vu qu'il fallait maintenant que j'aille sur le terrain. Comme je suis dans une école de formation horticole, c'était très difficile. J'ai commencé par d'abord à essayer d'intéresser les gens là-dessus. Bon, à faire des sites. J'ai fait un site pour l'école. J'ai fait une plateforme de formation à distance que j'ai mise en place et tout pour qu'on puisse maintenant trouver d'autres marchés. Je les ai même proposé de faire des propositions de cours pour les gens qui ne peuvent pas venir sur l'école et de faire les modules à distance et de venir faire la pratique avec l'école. Mais c'est très difficile parce que ce n'est pas aussi développé. Hein. Ça dit qu'à l'école, il y avait 4 ordinateurs. Il y en avait 4. Donc, ça ne pouvait pas marcher. Donc voilà, donc je me suis dit, il fallait continuer quand même, ne pas lâcher. Okay. Alors je suis allé au ministère.
Un coup pour l'aventure.
Voilà, j'ai dit que je continue, je ne lâche pas. Bon, j'avais une thèse en cours en littérature que j'ai laissée de côté, j'ai continué. Donc je suis allé au ministère et là aussi j'ai dit, bon, quand je viens, je vais faire bouger les choses. Il faut que ça change.
D'accord.
Là aussi j'ai vu que c'était pas, il y avait partout des choses quoi. Au Sénégal, on fait beaucoup de projets. J'en ai pas parlé, hein. Il y a les projets sur l'alphabétisation, et l'éthique, le curriculum, il y a beaucoup de projets. Alors j'ai dit que là, il fallait que je fasse bouger les choses. Donc c'est un peu c'est quelque chose qui me tire, quoi. C'est pas moi c'est quelque chose qui me tire. C'est pour cela que là, je suis arrivé à travailler avec un collègue qui est dans un lycée à Bignona. On a monté ce projet sur le blog. J'ai ouvert mon blog, je me suis dit maintenant que, comme je n'ai pas de je vais essayer de faire des choses comme ça, donc pour moi-même. Donc, le partager avec les autres. Donc, il y a, je sais qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'ordinateur. C'est ça qui m'a poussé à le faire. Et je savais qu'on pouvait enseigner autrement et changer les pratiques parce que tu es un petit Sénégalais, tu lui fais faire un poème sur Ronsard, 16e siècle, ça pose problème. Donc, voyez. Donc, c'est totalement un déphasage avec leurs préoccupations. Donc, il fallait qu'on fasse une jonction entre les deux. Et les profs sont preneurs. Hein. Ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas un problème peut-être de représentation et de refus. Mais je pense que c'est un problème de moyens. De moyens. Parce qu'on a fait un projet avec Orange, sur l'hôtel, sur l'utilisation des tablettes. Et j'ai travaillé avec des professeurs de français. Et ils vous proposent des choses très, très intéressantes. Donc, je crois que c'est ça à ce niveau-là. Même les gens veulent changer chez nous. Hein, ils veulent changer. Mais, question de moyens, question de pause. C'est en fait cela. C'est une passion pour moi. Et je sais que techniquement, on peut faire autre chose que le train-train quotidien, les quatre murs, l'immobilisme.
Merci.
Ouais, il fallait changer.
Et Madame Pires, pour vous, qu'est-ce qui vous a poussé?
Alors, c'est vrai que je suis très numérique. J'aime beaucoup les nouvelles technologies. Je suis prof de français, mais j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui est technologie et nouvelles et ressources pour les classes. Et puis, en fait, j'aime beaucoup le tableau blanc numérique. J'ai fait une... Par hasard, on m'a offert une formation pour être formatrice de tableau blanc numérique. Et puis, voilà, c'est venu tout seul. Et j'en ai fait pas mal. Et voilà.
Un goût pour... Parfois, ça marche simplement pour le goût d'un certain objet ou d'un site et ça pousse... Voilà. Jean-Michel, vous vouliez dire quelque chose pour finir et après, je vous donne la parole pour les questions.
Oui, juste un oubli. Parmi les choses qui changent, je pense que ça touche aussi le FLE. Parmi les prises de conscience qui ont accompagné mon évolution, nous avons aussi de nouvelles capacités à transmettre qui n'existaient pas quand j'ai commencé et qui sont liées au numérique. Chercher, trouver, exploiter l'information, diffuser l'information, interagir avec autrui. C'est ce qu'on appelle communément l'éducation aux médias, par exemple. Ça fait partie de nos tâches, désormais, essentielles. Pas qu'à nous, professeurs de français, mais aussi à nous, professeurs de français. Ce sont des capacités que tous nos élèves, qui ne sont pas universellement partagées. Tous les élèves ne sont pas des digital natives, peut-être si du point de vue générationnel, mais en tout cas pas du point de vue des compétences. Du coup, si nous ne nous les transmettons pas à ces élèves, ces capacités, qui va les leur transmettre? Personne. Et aujourd'hui, la fracture numérique, elle est là. Hein. Ce n'est plus une fracture d'équipement chez nous, j'entends bien, en France. C'est une fracture d'usage. Et quiconque, dans quelques années, ne sera pas publié sur le web sera un illettré. Donc notre travail, et je pèse mes mots, il est aussi politique, c'est de lutter contre les inégalités face au numérique.